Vous écoutez Radio Impala émettant sur la bande de 16 mètres sur la fréquence de 17 540 kHz. Nos émissions sont diffusées au Rwanda de 19 h à 20 h. Nous émettons également dans les autres pays de la région des Grands Lacs. Radio Impala diffuse l'information concernant le Rwanda, la région des Grands Lacs, l'Afrique et le reste du monde. Il diffuse également des émissions destinées à mobiliser la population afin qu'elle conduise ses efforts pour construire un pays démocratique, égalitaire, non discriminatoire, garantissant la paix et la sécurité à chaque Rwandais, jeunesse, gente féminine, hommes et femmes politiques qui luttent pour les droits de l'homme. Vous tous, membres de différentes associations, religieux, agriculteurs-éleveurs, artisans, indépendants de tout genre, et vous tous qui avez des idées pour développer notre pays, Radio Impala est la vôtre.
Les oranges pilées dans les seaux de goudron. Mes amis n'ont jamais revu ma rivière. Ils se sont perdus quand se perdit l'avion.
Le 4 novembre 2014. Aujourd'hui, nous allons vous donner une émission en français, en langue française. Et c'est pourquoi peut-être nous comptons, nous essayons de compter sur vous, parce que vous nous suivez en grand nombre, surtout en Afrique centrale. Et quand nous parlons Afrique centrale, c'est le Rwanda, le Burundi, le Congo, les deux Congo, même à l'Afrique de l'Ouest. Parce que là, l'Afrique là, centrale, c'est l'Afrique surtout francophone. Et peut-être nous comptons aussi une partie de francophones qui se trouvent dans l'Est de l'Afrique, surtout East Africa Community, l'Ouganda, le Tanzanie, le Kenya. Et nous savons très bien qu'il y a aussi des francophones dans cette partie. Alors, Radio Impara aimerait communiquer, aimerait vous donner une émission aux francophones qui se trouvent en Afrique centrale, même pas seulement en Afrique centrale, même partout dans le monde, parce que le français, c'est une langue qui est parlée partout dans le monde. Bon, alors là, aujourd'hui, nous allons vous donner cette émission en langue française parce que ce n'est pas d'habitude. D'habitude, on vous donne une émission en français le samedi, mais nous avons préféré de vous donner cette émission mardi parce que samedi nous avions donné une autre émission en langue nationale, donc le Kinyarwanda. Alors là, c'est pourquoi nous récompensons cette journée. Nous allons vous donner une émission en langue française. La langue aujourd'hui, alors, nous allons voir ce qui se passe surtout en Afrique, un événement très très important en Afrique. Tout ce qui se passe au Burkina Faso. Nous savons très bien que le peuple africain suit avec une oreille attentive tout ce qui se passe au Burkina Faso, parce que c'est une affaire qui concerne presque toute l'Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a des élections, il y a des présidents qui sont au pouvoir, qui vont terminer leur mandat. Donc là, ces présidents qui viennent de passer plus de 10 ans au pouvoir et qui doivent peut-être arrêter de se présenter aux élections parce que la Constitution ne le permettait pas, mais on n'est pas sûr parce que souvent il y a des tentatives, il y a les présidents, même il y a des rumeurs, pas seulement des rumeurs, il y a des manifestations, il y a quelquefois des langages qui se passent d'ici et là, qui veulent que les présidents qui vont terminer leur mandat changent les constitutions. Donc, change les articles de la Constitution pour qu'ils se représentent de nouveau pour s'accrocher au pouvoir. Alors là, ce phénomène qui se passe au Burkina Faso, c'est un phénomène qui concerne tous les Africains et c'est pourquoi nous aimerions vous donner tous les détails, tout le débat, tout ce qui se passe au Burkina Faso parce que c'est un changement important, peut-être qui va toucher plusieurs pays africains. Alors là, dans cette émission aujourd'hui, la radio Impara vous a préparé une émission en langue française. C'est un débat qui est passé sur la télévision France 24. Ce débat parlait surtout ce qui se passe au Burkina Faso. Alors là, c'était une émission, donc un débat sur ce qui se passe parce que c'est l'armée qui a le pouvoir au Burkina Faso. Alors la question se pose, l'armée à la tête du Burkina Faso, c'est un pouvoir sans limite. Donc c'est-à-dire que c'est toujours l'armée qui va prendre le pouvoir, parce que avant c'était Thomas Sankara qui a été renversé par Blaise Compaoré. Compaoré, il a quitté le pouvoir, donc il est parti parce que la population s'est soulevée contre lui, donc il est parti. Après avoir quitté le pays, c'est l'armée qui a confisqué le pouvoir, donc avec le lieutenant-colonel Zida. Alors là, on se pose la question, est-ce que c'est l'armée qui va garder le pouvoir sans limite? On se pose cette question, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous présenter ce débat qui a passé sur la radio-télévision, donc c'est la télévision internationale France 24 qui va animer le débat sur le pouvoir, donc ce qui se passe au Burkina Faso. Donc nous vous présentons cette émission et nous vous remercions peut-être de bien vouloir suivre cette émission. Merci de bien écouter, de bien suivre l'émission qui vous a présenté, qui vous a été préparée par la radio Impara.
Trois jours après le départ du président Compaoré, c'est un militaire qui a pris la tête de la transition au Burkina Faso. Il s'agit du lieutenant-colonel Zida. Il était le numéro 2 de la garde présidentielle et il est aujourd'hui aux commandes du pays, mais il promet de transférer le pouvoir aux civils. Tiendra-t-il ses engagements? Y a-t-il coup d'état militaire au Burkina Faso? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Edouard Sanou. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes représentant de l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement, qui était donc un parti d'opposition en France, membre par ailleurs du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Robert Bourget, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été l'homme de la France-Afrique du temps de Jacques Chirac ou encore de François Mitterrand? En tout cas, vous connaissez très très bien l'Afrique, vous avez côtoyé de très près les dirigeants africains et vous connaissez évidemment le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Bruno Jaffré, bonsoir. Historien de la révolution du Burkina Faso, auteur de la biographie de Thomas Sankara, La patrie ou la mort. C'est une édition revue et augmentée aux éditions de l'Harmattan. On le dit à nos téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas tous, Thomas Sankara est l'homme qui a dirigé la révolution burkinabé en 1983, qui a été ensuite assassiné avec notamment donc un coup d'État en 1987 dans lequel le président Compaoré aurait été impliqué et qui a amené donc justement au pouvoir Blaise Compaoré. Vous êtes par ailleurs l'auteur d'un blog sur Mediapart, le blog de Bruno Jaffré. Ziad Imam, bonsoir, on vous connaît bien, directeur du mensuel Afrique Magazine. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le nouvel homme fort de Ouagadougou, le lieutenant-colonel Isaac Zida.
Il fallait aussi les rassurer, de dire que nous ne sommes pas là pour usurper et nous asseoir et gérer le pouvoir d'État. Mais nous sommes là pour aider à sortir le pays dans une situation où il s'est retrouvé par la force des choses. Je pense qu'ils ont compris notre message. De toute façon, ils vont suivre avec nous l'évolution et ils pourront bien sûr nous accompagner même à cela.
Edouard Sanou, opposant, est-ce que vous vous êtes fait doubler par les militaires?
Disons que la situation est un peu confuse. Alors, nous, en tant qu'opposants, c'est pas nous que l'armée aurait doublé, c'est plutôt le peuple que l'armée aurait doublé, parce que c'est le peuple qui était dans la rue, avec bien sûr les partis politiques et les partis d'opposition. Et c'est vrai qu'il nous paraissait beaucoup plus logique qu'à l'issue de tous ces efforts qui ont été déployés par notre peuple, par les organisations de la société civile et par les partis politiques, que ce soit un civil qui conduise la
transition. Et normalement, d'ailleurs, ça aurait dû être, il faut le dire, le président de l'Assemblée nationale, en tout cas c'est ce que dit la Constitution, qui aurait dû assurer l'intérim, d'ailleurs qui reste totalement introuvable, ce président de l'Assemblée nationale.
Si la Constitution avait été maintenue, je rappelle qu'elle a été suspendue par le lieutenant-colonel Zida. Si la Constitution avait été maintenue, effectivement, elle dit que c'est le président de l'Assemblée qui aurait dû occuper le poste en cas de vacances. Mais comme le président de l'Assemblée lui-même n'est manifestement pas présent au Burkina Faso, il y a un vrai vide qu'il fallait combler.
C'est pas étrange.
C'est pas étrange, je vous le dirai après pourquoi. C'est un coup d'État militaire? Vous dites ce soir c'est un coup d'État militaire?
Tout dépend en fait de la suite des événements. Si le pouvoir est transféré à des civils et si la transition est gérée par des civils, l'armée aura joué son rôle pendant la période nécessaire pour qu'on revienne à une situation stable, pour que les exactions, les casses, pour restaurer la sécurité, ce qui est son rôle. Et si l'armée transfère le pouvoir ou pour cette transition aux civils, je pense qu'il n'y aura pas lieu de parler de coup d'État.
Robert Bourget, est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État militaire ou est-ce que vous êtes d'accord avec Edouard Sanou que pour l'instant, non, c'est trop tôt. Il faut attendre de voir si l'armée transfère le pouvoir aux civils.
Je suis tout à fait d'accord avec mon ami. Je suis très proche de son président, Zéphirin Diabré. Et il est bon aujourd'hui, devant la situation extrêmement confuse et l'insécurité qui règne à Ouaga et ailleurs, il est bon que pendant une période extrêmement limitée et sous le contrôle très attentif des grandes puissances, il est bon que l'armée assure l'ordre et la sécurité.
Mais le risque, Robert Bourgis, c'est toujours le même, souvent en Afrique, mais aussi ailleurs, c'est que l'armée ne rende pas le pouvoir aux civils. Et on l'a vu dans de nombreux pays.
J'ai toujours dit, dernièrement, dans une interview au Figaro, j'ai toujours dit que l'armée, lorsqu'elle quittait la caserne, retrouve difficilement la route du retour vers la caserne. Mais je crois que les choses ont évolué en Afrique. Je pense très sincèrement que le colonel Zida est conscient de cela et les militaires qui l'entourent. Il faudra, au bout d'un certain temps, très limité, assurer une transition et remettre le pouvoir aux civils.
Bruno Jaffray, est-ce que vous êtes aussi optimiste que peut l'être Edouard Sanou et Robert Bourgis? Vous pensez que la transition va se faire?
Elle va se faire, elle est en train de se faire. Moi, dans ce que j'écris, j'ai toujours dit qu'il fallait que tout le monde se mette autour de la table, y compris des représentants de la société civile. Je ne sais pas s'ils participent actuellement aux discussions. Et je pense qu'il faut expliquer dans quelle situation nous sommes arrivés aujourd'hui. Le 30 octobre, le jour de l'insurrection, tous les dirigeants des partis politiques étaient à l'Assemblée nationale. Et le peuple était dans la rue, dirigé par des membres de la société civile, dont le Ballet citoyen, le collectif anti-référendum, etc. Ils sont avancés les mains nues en face des forces de l'ordre. Et ils avaient, eux, la responsabilité de la foule qui était dans la rue. Je pense qu'ils n'ont pas contrôlé la foule en permanence de cette journée-là, mais ils avaient cette responsabilité. Ils sont partis, je ne sais pas comment, ils sont partis, bon, je passe sur un certain nombre d'événements qu'il y a eu dans cette journée, dont une trentaine de morts. Je n'ai pas très bien compris à quel endroit, si c'était à la présidence ou devant le domicile de François Campari, mais on va terminer ça. Ce qui est important, c'est que les jeunes du Ballet citoyen ont été chercher d'autres, je pense qu'ils ont été les chercher, des représentants très influents de la société civile, des juristes, en la personne d'Augustin Louada et Luc Ibriga. Et c'est tous ensemble qu'ils ont été voir les militaires pour leur demander de prendre leurs responsabilités, parce qu'ils sentaient que eux, malgré leur influence sur la jeunesse, ils n'allaient pas pouvoir contrôler toute cette foule, et que les dirigeants politiques, pendant toute cette journée, ont été plus ou moins absents, parce que, sans doute, comme on dit là-bas, ils devaient se chercher.
Mais on peut avoir des doutes quand même. On peut avoir quand même, malgré tout, des doutes.
Ils sont arrivés dans les discussions, malheureusement, quand c'était terminé.
On peut avoir quand même des doutes, parce que ce lieutenant-colonel Zida, je le disais, était numéro 2 donc, de la garde présidentielle, Zed Lima. Mais certains disent que ce pourrait être le pion de Blaise Compaoré. Est-ce qu'on peut imaginer, ou c'est complètement suralliste, qu'aujourd'hui, donc, le président burkinabé qui est réfugié en Côte d'Ivoire, eh bien, les militaires ont le pouvoir à Ouaga et qu'ils reviennent qui nous prépare un retour. C'est complètement inimaginable.
Je pense qu'on n'est pas dans ce scénario-là. Je pense qu'il nous manque aussi beaucoup d'éléments de ce qui s'est passé entre mercredi, jeudi et vendredi, parce qu'on parle quand même d'un régime de 27 ans qui était supposé être un des plus stables de la région, qui était supposé être soutenu aussi par la France, par un certain nombre de pays voisins, médiateurs, etc. Bon, moi, c'est un pays que je connais très bien, donc je peux en parler assez franchement. Personne ne pouvait imaginer. On s'était rendu compte que le débat sur l'amendement de la Constitution allait être un débat problématique, au minimum, que ça passerait pas facilement, que ça posait un problème quand même pour quelqu'un qui avait été là depuis 27 ans, et qu'il demandait un mandat supplémentaire et le dernier mandat. Et personne ne se doutait, moi franchement, personne ne se doutait que la foule allait prendre la ville. Comme vous disiez, les principaux leaders des partis politiques étaient au Parlement en train d'aller pour débattre de l'amendement, pour essayer de retourner des députés qu'elle, etc. Donc on était dans un espèce de processus très constitutionnel et politique, et d'un seul coup, il y a une éruption qui était prévisible, en fait, depuis mardi, quand on a vu le nombre de gens qu'il y avait sur la place de la Nation devenue place de la Révolution. Et donc, tout le monde est surpris. Et dans un scénario où tout le monde est surpris, y compris le chef de l'État, je pense franchement que Blaise Compaoré, que je connais, il est tombé de l'armoire. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout quelque chose dans ses calculs, des gens autour de lui, de son gouvernement, tout ça.
Étonnamment, il est parti très vite, il ne s'est pas du tout accroché
Ça se discute, disons que sur la journée de mercredi jusqu'à jeudi soir, il y a une tentative de rester maître de la transition qui a, le lendemain matin, avec l'invocation, c'est lui-même qui a fait la déclaration de vacances, et il a déclaré l'article 43 qui aurait pu permettre au président de l'Assemblée, qui s'était évaporé dans la nature, de prendre le pouvoir. Je dis juste, pour répondre à votre question, Vanessa, qu'à ce moment-là, chacun joue des cartes qui ne sont pas très claires à lire. Il y a eu trois militaires qui se sont pratiquement autoproclamés en même temps. Un qui était proche de l'ex-président, un autre, si ça. Zidane, numéro 2 de la garde présidentielle, ça ne veut pas dire qu'il est forcément les meilleurs.
Parce que vous voyez ce tweet, et ils sont nombreux les internautes ce soir, vous le savez qu'on est très regardés en Afrique.
Vous savez,
le régime Compaoré continue, car c'est sa garde rapprochée qui est aux commandes.
Il faut donner un peu de temps au temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la Tunisie, on en a parlé 25 fois sur ce plateau. Les 4-5 derniers jours qui ont suivi la chute de Ben Ali, il y a eu 50 interprétations, deux chefs d'État successifs. Et tout ça est très complexe parce qu'on est dans une situation où il n'y a pas de... où on ne sait pas exactement où sont les réalités. Et puis, je pense que ce que vous disiez sur la sécurité, c'est très important. On parle d'une ville d'un million et quelques d'habitants où il n'y a plus... où l'ordre est quand même extrêmement instable. Il faut protéger les biens, les civils, les étrangers. Il ne faut pas qu'on donne des prétextes d'intervention. Donc, tout ça, il faut bien que quelqu'un, à un moment, prenne un peu la main, quel que soit X.
Il y a un point sur lequel je voudrais revenir quand même qui a été relevé par Bruno Jaffray. J'entends ici et là dire que les partis politiques ont été très très lents à réagir et qu'ils sont intervenus une fois que les choses étaient terminées. Je voudrais quand même replacer les choses dans leur contexte. D'abord, les partis politiques n'ont pas les mêmes contraintes et les mêmes délais de réaction que les organisations de la société civile. Il ne faut pas oublier que l'opposition... Ce n'est pas un seul parti, c'est un conglomérat de partis.
Elle est fragmentée, elle est divisée.
Non, ce n'est pas qu'elle est divisée. Elle est composite. Elle est composée de partis différents qui ont des tendances différentes, des objectifs même.
Mais elle est divisée, on peut le dire, elle est divisée.
Non, je ne pense pas qu'elle soit divisée. Elle est unie derrière le chef de file de l'opposition. Et le chef de file de l'opposition ne se représente pas que lui-même.
C'est Ferrat Diabré, mais il y a aussi une femme, Saran Sérémé, qui voulait aussi aller à la télévision.
Saran Sérémé est une opposante, mais elle ne représente pas l'ensemble de l'opposition. L'opposition politique est...
Elle est prête à gouverner, cette opposition politique, parce que souvent on dit, quand il y a eu des années de dictature ou de régime autoritaire, que c'est très difficile justement pour une opposition d'arriver unie et d'être prête à gouverner. Est-ce que cette opposition est prête à gouverner?
L'opposition politique est prête à gouverner. Mais elle s'était positionnée pour un agenda dont le terme était novembre 2015. Là, tout le monde
est prise de court, en fait.
Et je voudrais quand même rappeler que les événements se déroulent sur une durée de 3 jours.
Oui.
Le jeudi matin, personne ne savait comment les choses allaient se passer. Donc, moi, je trouve qu'on est un peu sévère. Avec l'opposition qui continue à jouer son rôle et qui joue un rôle avec en prenant le temps de la concertation. Et je pense que c'est important que le chef de file de l'opposition concerte les autres partis, les autres composantes de l'opposition
avant
de s'exprimer. Voilà.
Bruno Jaffray et ensuite Robert Bourgier aussi.
Moi, j'ai toujours beaucoup de choses à dire, il va falloir me calmer. Mais bon. sur la question de Zida, la question est légitime. Elle est légitime parce que Zida est l'adjoint du général, je crois qu'il est général maintenant,
colonel
Diendéré, qui est l'adjoint de Blaise Compaoré. Et Diendéré est, semble-t-il, encore à Ouagadougou, ce qui pose évidemment beaucoup de questions. Cela dit, j'ai été fouillé un peu parce que Zida est un inconnu pour moi, mais sans doute pour beaucoup de Burkinabés. Et j'ai vu dans une dépêche de l'AFP, je crois, que c'est un des seuls officiers de la garde présidentielle. Vous savez qu'en 2011... Il y a eu une mutinerie dans tout le pays, et il y en a même eu à la garde présidentielle, et que semble-t-il, c'est des informations que je ne peux pas vérifier, c'est le seul officier qui n'a pas été maltraité par les soldats. Alors je vais rajouter une deuxième chose, parce que j'ai dit ça sur la journée du 30 octobre, qui explique pourquoi des civils ont été voir les militaires. Je veux revenir plus longtemps en arrière, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, alors d'abord dire que les gens n'ont pas prévu, moi 2 jours avant, j'ai écrit dans mon blog que Blaise Compaoré était fini, qu'il allait devoir partir et que la seule chose qu'on attendait, c'est de savoir quel est le prix que le peuple devait payer pour qu'il parte. C'est-à-dire que c'était prévisible. Si moi, un illustre inconnu, peut écrire ça sur son blog, c'est que la situation est prévisible. Simplement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils connaissent ce pays et qu'ils ne le connaissent pas. Je voudrais juste dire, après, sur la dynamique qui s'est créée, elle vient de 2012. C'est pour ça que je vais saluer finalement l'opposition, malgré ce que j'ai dit. C'est qu'effectivement, cette dynamique, elle vient de 2012, où il y a un chef de l'opposition, en la personne de Zéphirin Diabré, entre parenthèses, ancien directeur Afrique d'Areva, c'est pour ça que M. Robert Bourgi le connaît sans doute très bien et que c'est son ami. Je ferme la parenthèse.
Ça n'a aucun lien avec Areva. Hein.
D'accord.
Je continue. Je vous mets à l'aise, monsieur.
Je continue. En tout cas, vous êtes le représentant de la France-Afrique, donc je continue parce que c'est pas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, il y a une dynamique qui s'est créée à partir de 2012. D'abord, tous les partis politiques étaient soudés parce que la question de la Constitution existait depuis cette période. Cette dynamique a fait en sorte qu'il y ait 4 ou 5 manifestations de plusieurs dizaines de milliers de personnes, ce qui est extraordinaire et qui existe dans peu de pays. Et c'est là-dessus qu'effectivement, un mouvement comme le Ballet Citoyen, qui ne se sentait pas représenté dans les partis politiques, a décidé d'encadrer la jeunesse. Et c'est effectivement tout le monde qui ont réussi à faire partir Blaise Compaoré. C'est-à-dire que je salue l'unité de l'opposition, alors que Blaise Compaoré, ça fait 3 ans qu'il manœuvre de différentes façons en essayant visiblement de déstabiliser l'opposition, et il n'y a pas réussi.
Cette réaction d'un internaute, le Burkina Faso n'a pas besoin d'être gouverné par les militaires, voulons un civil pour tourner la page. Robert Bourgi, on le disait, est-ce qu'on peut considérer que le lieutenant-colonel Zida est un pion? Est-ce que vous pensez que le président Compaoré de la Côte d'Ivoire tire encore les ficelles?
Absolument pas. Non. Le président Compaoré,
il est fini,
a été renversé. On n'est jamais fini en politique.
Ah, voyez, vous dites, on n'est jamais fini en politique. Non.
Il doit être jugé.
Doucement, monsieur, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler.
Allez.
Et je voudrais parler. En politique, en général, en règle générale, on n'est jamais fini. Mais je pense que le président Compaoré est parti, et il est parti pour toujours. Je ne pense pas un seul instant que Zida ou les autres militaires vont faire quelque chose pour amener le président Compaoré. Ça serait inacceptable, d'abord par le peuple burkinabé et par la communauté internationale. Ça serait une farce, une grosse farce.
Mais est-ce que vous avez des nouvelles, Robert Bourgi, de Blaise Compaoré?
Je suis un homme informé, je pense. Il se porte bien. Il est loin de la capitale. Et je ne sais pas, je ne voudrais pas me glorifier, mais il devrait méditer aujourd'hui tous les conseils que je lui ai donnés directement et indirectement.
Quels sont-ils?
À savoir de ne pas triturer, violer, modifier la Constitution.
Vous savez, il s'en est donné à cœur joie quand même pendant. Il a quand même pas de reprise.
La France-Afrique a quand même de bon côté. Monsieur Zéphirin Diabré.
C'est vous qui transportez les valises d'argent de Blaise Compaoré, de l'argent qui a été volé à son peuple.
Dites-moi, nous ne sommes pas là pour parler d'événements qui n'étaient pas prévus au débat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faudrait que ce débat reste un débat intelligent.
C'est pas, et pas agressif.
S'il vous plaît. Je n'ai jamais porté de mallette d'argent. Les journalistes ont brodé. J'ai accompagné des émissaires. C'est tout. Je n'ai jamais porté de valise. S'il vous plaît. Si vous voulez que le débat reste animé par nous, vous me laissez parler. Sinon, je m'en vais. Immédiatement. Bon, Blaise Compaoré est parti, et il est parti pour toujours. Aujourd'hui, il médite tous les conseils que je lui ai donnés, que d'autres personnes aussi avisées que moi lui ont donnés. Ne triture pas la Constitution. J'en ai parlé longuement avec Zéphirin Diabré. J'en ai parlé avec Salif Diallo, un de ses anciens compagnons de route, maintenant un de ses plus farouches opposants. J'en ai parlé à François Compaoré dernièrement. Je l'ai vu à Paris, dans un restaurant. Je me suis avancé vers lui et je lui ai dit, François, puis-je te parler? Il n'y a pas de problème, grand frère. Je lui ai dit, écoute, dis à Blaise, redis à Blaise, de ne pas modifier la Constitution. Il ne sera soutenu par personne, ni en France, ni intramuros, ni extramuros. Il n'a pas voulu écouter et il s'en est allé. Et je ne pense pas qu'il reviendra. Et les militaires, ceux qui gouvernent Zida et compagnie, que j'ai rencontrés, on ne peut pas ne pas les avoir rencontrés, n'est-ce pas, Ziad? Ce sont des soldats d'abord. Et ce sont des gens méthodiques. Je pense que Zida a une volonté claire et affirmée aujourd'hui de vouloir, après une période de transition assez courte, organiser les élections présidentielles et législatives et confier le pouvoir aux civils. Il ne peut pas en être autrement. Il ne faut pas l'accepter autrement.
Allez, on fait une petite pause, le temps du rappel des titres, et puis on reprend notre débat, parce qu'on n'a pas entendu beaucoup Paris hein, depuis le départ du président Compaoré, un allié des Français. On en parlera justement, parce que le Burkina, il faut le savoir, c'est un allié stratégique aussi pour la France. Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord, Ziad Limam, peut-être dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on perd un allié, un allié précieux, un allié de poids ?
On surdimensionne beaucoup ces relations.
On va en parler, allez, le rappel des titres, à tout de suite. Édouard Sanou, on n'a pas beaucoup entendu la France ces dernières 72 heures. Est-ce que vous le regrettez ?
Ben, c'est vrai que la France ne s'est pas beaucoup exprimée. On peut même regretter qu'avant que les événements n'en arrivent là, qu'elle ne se soit pas exprimée davantage pour conseiller à Blaise Compaoré de ne pas modifier la Constitution et de ne pas tenter de se maintenir au pouvoir.
Écrit. Le président a écrit une lettre, on ne peut pas être plus clair.
Bon, le président a écrit une lettre dans des termes
diplomatiques.
Très diplomatiques que Blaise Compaoré, manifestement, ne comprenait pas.
Oui.
Voilà. Donc, nous, notre souhait n'était pas que la France décide.
Vous le regrettez quand même que Paris ne donne pas un appui à la démocratie.
Un appui plus fort à la démocratie.
Et propose peut-être même à Blaise Compaoré, dans cette fameuse lettre, de prendre la tête d'une grande organisation internationale. Est-ce que ça vous heurte, après 27 ans de pouvoir quand même autoritaire ?
Bon, moi, je pense que c'est le peuple burkinabé qui avait à se libérer du joug d'un dictateur. Le peuple burkinabé ne comptait pas forcément sur la France pour le libérer. Mais maintenant, il aurait été bien que, de la même manière que les Nations Unies, les États-Unis se sont très clairement exprimés pour la non-modification de la Constitution, que la France le fasse d'une manière un peu plus visible, je crois.
Si vous me permettez, peut-être aussi de dépassionner un tout petit peu le débat. Il faut remettre ça dans un contexte d'un régime de 27 ans. Je pense que tout régime qui a 27 ans, sa mutation, son départ, sa transformation est complexe, et en particulier en Afrique, où, on a quand même deux générations de cadres qui ont été formées par le compaorisme, on a une administration entière, on a des militaires, etc., etc., des enjeux internationaux, etc. Donc il y a eu un dialogue politique avant la chute de Compaoré, qui était clairement un dialogue qui essayait de mettre en place les termes d'une transition avec ou sans l'amendement de la Constitution. Ce dialogue a échoué parce que personne ne fait confiance à personne, ce qui est parfaitement normal.
Non, mais je pense que l'échec de ce dialogue était déjà inscrit dès le départ.
Je dis juste, pour remettre les choses dans le contexte, que je ne pense pas qu'il y avait une présidence à vie derrière tout ça. Je pense qu'il y avait une tentative de se donner du temps pour trouver une situation politique à son propre départ qui devenait ingérable. Soit qu'il reste, soit qu'il s'en aille, c'était très compliqué pour tout le monde. Ça, c'est un. Deux, on me dit que l'opposition... Moi, je connais tout le monde. Hein. Je connais Zéphirin, je connais Ablacé, je connais les anciens de Blaise, etc. Ces gens ne s'entendent pas entre eux. Ils ont tous des ambitions. Si vous dites que votre monsieur Diabré, que je connais très bien, est le patron de l'opposition, vous pouvez en parler à Roch-Christian Caboret. Et je serais curieux d'avoir son opinion là-dessus.
Donc c'est une opposition divisée.
Je serais curieux d'avoir l'opinion des mouvements dont parle notre ami, qui sont des mouvements citoyens qui sont presque à la limite... De l'anti-parlementarisme, j'allais dire. Et donc tout ça est extrêmement complexe et il faut prendre tout ça avec un peu de pincette. Les militaires ont été divisés en 2011. Il y a une partie qui est allée vers le pouvoir. La base qu'on pensait complètement tenue est descendue dans la rue. Ils ont tiré dans les... Donc c'est un pays qui est beaucoup plus divisé, beaucoup plus fragile. C'est exprimé ce jeudi. Je répète, moi, ce que je sais de ce qui s'est passé dans le palais parce que je les avais au téléphone. Ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. C'était quelque chose de totalement imprévisible. Alors, c'était probablement prévisible du côté des organismes, j'allais dire, de la foule, mais dans le palais, c'était imprévu. Et dernier point, et après je m'arrête, il faut arrêter avec la France-Afrique. La France ne maîtrise pas ce qui se passe tous les jours, minute par minute, à Bamako, à Ouagadougou, à Dakar, à Abidjan. Il y a des gens très bien qui connaissent le circuit par cœur. Mais ces chefs d'État aussi s'émancipent de la France-Afrique. Ces chefs d'État aussi essaient d'avoir des liens avec d'autres gens, des financements qui viennent d'ailleurs, etc. Le bouquin de Glaser, qui est peut-être un petit peu excessif sur l'inversion, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Hollande ne peut pas appuyer sur un bouton et dire à M. Compaoré, vous partez, M. Machin, vous restez. Tout ça, c'est mort. Je veux dire, il y a peut-être des réseaux d'affaires, il y a de l'argent, bien sûr. Mais on, ça ne fonctionne plus comme ça.
La lettre, est un exemple. A soutenu quand même des régimes autoritaires. Peut-être que Blaise Compaoré, peut-être sans la France, peut-être ne serait peut-être pas resté 27 ans au pouvoir.
Tout le monde soutient des régimes autoritaires depuis la nuit des temps quand ça les arrange mais les oublie quand
ça les arrange pas. Je ne sais pas pourquoi le soutien au régime autoritaire serait quelque chose de normal pour l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi... On pourrait
mais
considérer
il n'y a pas que l'Afrique qui est concernée.
Eh ben voilà, donc c'est quand on dit que c'est une anomalie que Blaise se soit maintenu pendant 27 ans au pouvoir sans qu'il y ait eu forcément de la part de la communauté internationale et bon d'un certain nombre de partenaires du Burkina.
Il y a eu quand même des élections,
pour le critiquer. Bon, ben c'est une réalité.
C'était pas un régime qui fonctionnait hors institution. Il y avait des élections, il y avait un parlement et après on a changé deux fois la constitution, mais il y avait des parlements élus, il y avait des journaux.
Mais que valaient ces élections ? Que valaient ces élections ? Parce que c'est vrai qu'il y avait une certaine liberté de la presse au Burkina Faso, mais que valaient ces élections quand on est élu avec plus de 80% ce sont des suffrages, ce sont des scores à la soviétique, ça.
Mais pas dans le cas du Parlement. Dans le cas du Parlement, ça s'est joué de manière différente. Il y avait une presse d'opposition, il y a une société civile, il peut très bien en parler, qui est très active, des syndicats. C'est pas l'image qu'on a du pays aujourd'hui, c'est une espèce de truc qui était tenu par un potentat.
C'est pas
la réalité. C'était un pays beaucoup plus subtil que ça. Et on le voit jeudi, on le voit mercredi, on le voit aujourd'hui. Il n'y avait qu'une société politique, donc c'est pas...
Ce n'était pas une dictature.
Robert Bourgis et Bruno Jaffré.
C'était quoi le mot démocrature ? C'est une démocrature.
Ok, bon, ben...
Non, j'en sais rien, je vous pose la question.
C'était une dictature pour vous ?
Ben, écoutez, quand on est au pouvoir depuis autant de temps...
Mais c'est intéressant d'avoir quand même, Ziad, le point de vue d'un Burkinabé, quand même.
Quand on est au pouvoir depuis 27 ans, qu'on est passé à travers des régimes d'exception, deux septennats, deux quinquennats.
Ça, on est d'accord.
Sur lesquels, du reste, vous remarquerez que l'opposition ne voulait pas au départ que Blaise ne finisse pas son mandat. S'il avait accepté simplement de terminer son mandat et de ne pas tenter de modifier la Constitution, il aurait tout à fait gentiment terminé son mandat et il serait...
Ça aurait été une sortie honorable.
À partir du moment où il a essayé, comme il l'avait fait par le passé, il l'avait déjà fait ce coup, où il a essayé de modifier la Constitution avec l'objectif tout à fait évident de se maintenir, eh bien, quel est le mot que vous avez utilisé ?
Démocrature.
Pour nous, c'était une...
Il y a eu beaucoup de gens...
À nous, bonne...
Robert Bourgis. Quels étaient quand même les liens entre celui que l'on appelait le beau Blaise et Paris ?
Je sais que les liens entre le beau Blaise, c'est vrai qu'il est beau.
Enfin, plus maintenant, quand même. Il faut...
entre le beau Blaise et Paris, était excellent. Mais là, nous ne sommes plus aux affaires. Nous n'avons pas la responsabilité du gouvernement et de l'exécutif. Mais je voudrais dire quand même des choses que je suis le seul autour de cette table à pouvoir dire. J'ai été un acteur et un témoin de la France-Afrique dans tous ces visages. Aujourd'hui...
Vous vous repentez ? Est-ce que vous vous repentez ?
S'il vous plaît, vous me laissez parler.
C'est pas méchant.
Je voudrais avoir, vivre encore assez longtemps pour pouvoir corriger toutes les erreurs du passé.
D'accord.
Aujourd'hui, il n'est pas pensable qu'un chef d'État en Afrique puisse accomplir plus que le nombre de mandats que la Constitution lui permet. Un. Deuxièmement, plus de soutien à des chefs d'État qui veulent violer les constitutions. Plus de soutien aux chefs d'État qui truquent les urnes et les élections. Plus de chefs d'État qui pillent le peuple et les richesses du pays. Aujourd'hui, il faut remettre les pendules à zéro et donner la parole au peuple. C'est ce que
mais Robert Bourgis, vous savez très bien qu'il y a la réelle politique. Ça veut dire que demain, Denis Sassou Nguesso, qu'on va plus soutenir...
Madame, vous ne me laissez pas terminer. Aujourd'hui, l'exemple du Burkina est un exemple extraordinaire. C'est un appel que lance le peuple burkinabé aux autres populations africaines qui vivent sous le joug de chefs d'État qui n'en finissent jamais de mourir à la tête de leur pays. C'en est fini des régimes qui durent 25 ans, 30 ans, 35 ans. C'est fini. Et je trouve que la France aujourd'hui même en tant qu'ancienne puissance coloniale, a son mot à dire. Et je trouve que la lettre du président François Hollande est à saluer. Mais je voudrais que ce président de la République, François Hollande, qui n'est pas de mon bord politique, puisse écrire la même lettre à Sassou Nguesso, à Idriss Déby et tant d'autres.
Robert,
ah, non, s'il te plaît.
C'est un peu dur aussi, parce que vous ne l'avez pas fait pendant des années, et maintenant vous leur filez le bébé, alors disons, mettez de l'ordre.
Non. Il faut. Non. J'ai envoyé des messages au président Compaoré, comme j'envoie des messages à d'autres chefs d'État, monsieur Jaffré. On n'est pas là simplement pour animer le côté obscur de la France-Afrique. Je n'appartiens pas à ce côté obscur. On a fait des choses qui sont inacceptables aujourd'hui. Soutenir des présidents qui n'avaient pas l'assentiment de leur peuple. Oui, le président Compaoré est parti, que cela serve d'exemple à l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Voilà.
Bruno Jaffré, est-ce qu'on perd un allié précieux? Parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a un COS, commandement d'opération spéciale, au Burkina Faso. D'ailleurs, ces hommes se font assez discrets. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le président Compaoré, est-ce que la France perd un allié précieux?
Il était fini. Je répète que je l'ai dit depuis un certain temps. Et je ferme la parenthèse. Et je pense que la relève est là. Vous avez vu les liens de Zéphirin Diabré avec la France. Il y a de quoi, en tout cas, si la France veut garder des alliés, il y en a d'autres qui peuvent jouer ce rôle.
Donc on n'a pas de quoi s'inquiéter, parce qu'on rappelle quand même que le Burkina,
vous pouvez voir une carte,
le Burkina est quand même frontalier du Mali, qu'aujourd'hui le Mali est une région qui reste encore extrêmement instable, avec des terroristes islamistes. Est-ce qu'ils
ne
vont pas...
Ils ne vont pas inquiéter.
Et est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que le Burkina Faso, avec une vacance peut-être du pouvoir, puisse servir de base arrière encore aux terroristes?
J'espère que ça va se régler. Je vais dire quelque chose sur la France-Afrique quand même. L'ambassadeur de France est très actif dans ces discussions. Qu'est-ce qu'il a à y faire là-bas? Il y a entre les lignes, on arrive à voir qu'il a discuté avec un tel, dont M. Zéphirin Diabré, qu'il a discuté... Oui, non, mais on parle de la France.
Aussi.
La CIA est accusée d'avoir participé à l'assassinat de Sankara. C'est pas comme les Français. Donc, et le Figaro a semble-t-il écrit dans son journal que la France avait aidé à l'exfiltration de Blaise Compaoré. Une information, je ne sais pas si elle est confirmée ou pas, mais en tout cas, le Figaro
Robert
l'a écrit.
Robert Bourgi, vous avez des informations? Mais j'aimerais que peut-être Robert Bourgi ait des informations, parce qu'il est très bien informé, Robert Bourgi. Ouais. Est-ce que la France a aidé à l'exfiltration du président Compaoré?
Je me suis laissé dire qu'ils auraient facilité le départ du président Compaoré.
Alors je continue donc. Un autre exemple.
Je n'affirme rien.
La France-Afrique est finie. Elle n'est pas finie. Un autre exemple. Je me suis insurgé contre M. François Loncle, qui est le président de l'amitié, du groupe parlementaire d'amitié franco-burkinabé. Pourquoi je me suis insurgé? Le lendemain de ce 30 octobre, monsieur vient à la radio. Il a dit un certain nombre de choses, dont le fait que la France...
On ne va pas faire le procès de François Hollande, il n'est pas ici sur le plateau. S'il était là, il pourrait vous répondre. Donc moi, je voudrais qu'on avance dans le débat, parce que, pardonnez-moi, mais il reste très peu de temps.
Ziad Limam, sur le fait... Rester au pouvoir.
Sur une phrase... Ziad Limam, sur cette idée, parce que c'est quand même important. Il y a l'opération Barkhane, il y a le terrorisme dans cette région-là.
Je ne suis pas dans le domaine des secrets des dieux, mais je sais qu'à Paris et à Washington, il y a une volonté progressive de se débarrasser d'un certain nombre de gens qui sont en place. Ils le font par touche, par message John Kerry, François Hollande, tatatita. Moi, je connais très bien les socialistes qui sont au pouvoir en ce moment. C'est des gens qui n'ont aucun lien affectif avec tous ces gens-là dont on parle et qui pensent que les relèves sont possibles. Là où il y a le...
Il y a quand même des socialistes...
Oui, Il y a une deuxième chose, c'est que c'est très facile de donner des leçons à tous ces pays en leur disant « Assumez vos responsabilités diplomatiques, militaires, etc. » Mais il faut voir ce que c'est que le Burkina. C'est un petit pays pauvre, excusez-moi, je ne fais que répéter une réalité, qui entretient un appareil militaire extrêmement important par rapport à la taille de son économie, à qui on demandait de faire la police au Mali, de faire la police au Niger, de faire la police pas où, de faire la police pas où, pas où. Et Berkane, on recule. Et Berkane, c'est le dispositif, on essaie de le limiter, etc. Si on veut lutter contre le djihadisme, si on veut lutter pour la sécurisation du Sahel, il va falloir que les Français, aider des Européens, aider des Américains, mettent des moyens militaires, d'intelligence, d'information, de guerre, etc., beaucoup plus importants que cette espèce de...
Est-ce qu'il y a un risque de déstabilisation du Burkina Faso aujourd'hui s'il y a justement vacances du pouvoir ou instabilité politique?
La frontière du Burkina, c'est le Mali. La frontière du Burkina, c'est le Mali. Donc il y a un risque.
Excusez-moi, je suis
entièrement pas d'accord.
Ben, je suis choqué par ce qui est dit. On parle des...
Ce qui est dit par qui?
Par moi?
Oui. On parle des intérêts stratégiques des grandes puissances et on ne parle pas des peuples et de la jeunesse africaine. Moi, je vous dis, aujourd'hui, les peuples africains, et le Burkina Faso vient d'en faire une démonstration, je crois, sont des peuples matures qui ne veulent plus vivre sous le joug des dictateurs et qui ne veulent plus...
Moi, je parlais de sécurité.
Moi, je reviens sur la sécurité, Edouard Sanou. Sur l'hôtel
des intérêts stratégiques des
grands puissances. Est-ce que vous craignez justement des infiltrations du terrorisme? On dit que le président Compaoré avait des liens avec le MNLA, avait des liens avec Ansardine. Est-ce que vous craignez justement que peut-être il n'y ait plus ces liens demain et qu'il y ait un risque d'infiltration justement de ces éléments terroristes? On le rappelle, regarde la carte. Le Mali est frontalier du Burkina Faso.
Le Burkina Faso n'a pas besoin de ces liens pour vivre et se développer. Ces liens étaient entretenus par Blaise Compaoré pour les intérêts de qui? Je n'en sais rien, mais certainement pas pour les intérêts du peuple burkinabé.
Madame, si les liens dont vous parlez du président Compaoré avec ces éléments terroristes existaient vraiment, est-ce qu'il y aurait eu l'opération Serval? Est-ce qu'il y aurait eu l'opération Barkhane? Moi, je pense. Je vais vous dire une chose. Cela va choquer. Et je vais rassurer un peu Ziad. Blaise aurait dû partir beaucoup plus tôt.
C'est clair.
Mais là où je voudrais m'élever contre ce que disait tout à l'heure Ziad, c'est qu'en voulant triturer la Constitution, Blaise ne voulait pas préparer sa succession. Il voulait rester jusqu'au bout de ses forces au pouvoir.
Je ne crois pas.
Faire un, deux et trois mandats.
Je ne crois pas.
Ziad, je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi au fond de toi-même?
Non, attendez. Je ne suis absolument pas d'accord avec toi.
Moi, j'ai une chose à vous dire.
Absolument pas d'accord. N'interprète pas ma pensée. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis à peu près sûr qu'il y avait une tentative des gens autour de lui, de sa famille, etc., de négocier un deal pour pouvoir sortir d'une manière ou d'une autre, pas en étant le président de l'OIF, parce qu'il ne voulait pas être le secrétaire général de l'OIF, c'est pas du tout son truc.
International de la francophonie.
Vous croyez qu'il avait l'intention de...
Je crois qu'il aurait eu des élections en 2015 qui l'auraient fait deux ou trois ans, qu'il aurait organisé quelque chose pour se sortir de la situation.
Non, mais j'ai une question.
Allez, on arrive bientôt au terme de débat. Moi, j'ai une dernière question à vous poser à tous. Edouard Sanou, est-ce que Blaise Compaoré doit passer devant la justice, selon vous?
Écoutez, c'est une question de principe. Si Blaise Compaoré est responsable de quelques méfaits au Burkina Faso...
Vous le savez s'il est responsable ou pas de méfaits au Burkina Faso.
Bien sûr.
Il est responsable de crimes au Burkina Faso.
Il y a un certain nombre de situations au Burkina Faso sur lesquelles les Burkinabés se posent beaucoup de questions et où nous pensons que Blaise peut répondre et apporter des éclaircissements dont les Burkinabés ont besoin.
Il faut qu'il passe devant la justice, si ce n'est que pour le meurtre de Thomas Sankara.
Bon, ça c'est la première chose qu'il faut élucider, mais il doit passer en justice pour les meurtres qu'il y a eu dans son pays, pour tous les crimes économiques qu'il y a eu dans son pays, et il doit être jugé par une instance internationale à déterminer pour les guerres qui se sont déroulées en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, au procès de Charles Taylor. Il était très souvent question de Blaise Compaoré comme étant un complice de Charles Taylor. Il n'a jamais été convoqué par la justice. Je veux dire, une petite chose, c'est que si les gens s'inquiètent de l'armée, c'est parce qu'ils ont laissé filer tous les responsables du pouvoir et ils sont tous partis du pays. Et il y a une raison, c'est aussi cette raison qui fait que les gens sont inquiets. Ils n'ont peut-être pas pu les arrêter, mais ça, le pays se trouve à devoir juger des gens sans en avoir les moyens.
Culture militaire, hein. six présidents, cinq chefs d'État militaires.
Robert Bougie, est-ce que vous pensez que Blaise Compaoré a des comptes à rendre devant la justice? Et est-ce que vous pensez que le président Ouattara, si demain il y avait des mandats d'arrêt internationaux, eh bien livrerait le président Compaoré?
Si justice il doit y avoir un jour, c'est au peuple burkinabé, souverainement, de le décider. Ça n'est pas à nous, étrangers, de le dire. S'il y a une personne habilitée à parler de cela, c'est le burkinabé.
Mais moi, je pense que le peuple burkinabé va demander au président.
Deuxièmement, il faudrait arrêter de dire, sans ces chefs d'État, c'est le vide politique et tout. Il y a des gens compétents dans chacun de ces pays d'Afrique. Ils ont été pour la plupart étouffés par un régime extrêmement fort,
et justement, c'est
avec une sécurité très dure, très renforcée. Il y a aujourd'hui, laissez-moi parler, il y a aujourd'hui un homme vers lequel il faudrait se retourner ou se tourner, un seul, qui est, à mon sens, pourtant Dieu sait que je ne l'ai pas toujours soutenu, c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, aujourd'hui, c'est le sage qu'il y a en Afrique.
Président de la Côte d'Ivoire, Robert Bourgi, rapidement, parce qu'il y a Karim Yaoui qui nous attend une anecdote que vous avez avec Blaise Compaoré, très rapidement. Une petite histoire, allez.
Une petite histoire, voilà.
Quand même.
J'ai accompagné, comme je le faisais un jour, Villepin. Vous savez, j'étais le rémora du requin. J'étais toujours avant Villepin dans ses visites dans les pays africains, n'est-ce pas, M. Ziad Liman ?
On te voyait.
Et un soir, à minuit, je fais recevoir Villepin, ministre des Affaires étrangères du gouvernement français, par Blaise Compaoré, qui m'avait fait le reproche de recevoir un simple ministre des Affaires étrangères à minuit. Et je lui dis, fais-le pour moi, Blaise. Il a reçu Dominique, qui ensuite décollait à 2 heures pour Bamako, où ATT l'attendait. J'avais monté ces deux entretiens, dans la nuit. Et Blaise, je pense beaucoup à lui actuellement, et dit à Villepin, il lui dit, Dominique, qu'est-ce que tu vas faire pour remercier Robert Bourgi de tout ce qu'il fait pour votre pays? Je ne vois jamais rien pour lui. Il faudrait lui accrocher, lui donner la Légion d'honneur. Mmh. Et il y a Dominique qui lui dit, il l'aura, et je la remettrai moi-même sur son cercueil. Vous voyez, c'est Sarkozy qui me l'a remise.
Allez, on reçoit Karim Yaoui. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat.
Il faudra que Robert écrive son livre un jour, oui, quand même, je pense.
Les mémoires arrivent.
Bonsoir Karim Yaoui, avec un peu de retard, et excusez-moi, le Burkina Faso qui continue de faire la une des médias.
Alors la une des médias français et africains, on va le voir du côté du Huffington Post, on titre sur cette inquiétude du peuple, mais aussi de la communauté internationale, de voir l'armée s'imposer. Du côté de ce journal ivoirien, Fraternité Matin, on titre aussi sur ces militaires, l'armée peut-elle s'imposer? Avec ce sous-titre, l'armée a choisi le colonel Isaac Zida, chef de la transition, mais aussi chef de l'État. Finalement, les militaires, pour le journal, ont réussi un coup d'État constitutionnel qui inquiète donc un certain nombre de Burkinabé, mais aussi au-delà des frontières. La société civile et notamment un certain nombre d'organisations qui avaient appelé Blaise Compaoré à quitter le pouvoir ont tenu à mettre au point certaines choses, notamment sur le site du journal burkinabé Le Pays. Cette organisation qui s'appelle le Ballet Citoyen explique qu'on s'est peut-être mal compris parce que lorsqu'ils ont appelé l'armée à prendre ses responsabilités, ça ne voulait pas dire prendre le pouvoir, mais surtout, avant tout, éviter un bain de sang dans le pays. Donc un certain nombre d'organisations expliquent que si l'armée doit jouer un rôle, elle ne doit pas forcément prendre les rênes du pouvoir comme elle l'a fait. Alors la contestation déjà évoquée sur le site de RFI, à peine adoubée par l'armée, Zida est déjà contestée. Sur les réseaux sociaux, on s'en fait l'écho de façon assez claire. Yacouba Ouédraogo est journaliste, il raconte ce qu'il a entendu pendant une manifestation. Zida nous a trahis. Il a permis à Blaise et à sa suite de fuir. Alors ce n'est pas la seule chose qu'on reproche à l'armée. Il y a un certain nombre de manifestations. Il y a eu un certain nombre de manifestations. On pouvait voir ce genre de pancarte. Non à la confiscation de notre victoire. Vive le peuple. Ou encore ici, Zida dégage. Encore des manifestations qui ont eu lieu ce week-end. On ne remplace pas le diable par un diablotin. Enfin, c'était aussi une pancarte qu'on pouvait voir du côté des manifestants burkinabés. Et puis ce site internet, celui de l'Observateur, autre journal du Burkina, qui est un petit peu moins critique vis-à-vis de l'armée, en expliquant que de toute façon, elle doit jouer son rôle, mais on évoque peut-être l'exemple malien qui pourrait être un exemple à suivre. Et puis cette histoire, largement relayée par les médias français, ce faux ou plutôt cette fausse page de l'aéroport de Ouagadougou qui a publié ce texte. Comme cela se passe habituellement, les directeurs et les présidents des différentes institutions publiques ou parapubliques seront prochainement remplacés. Avant, c'était des amis et des proches de Blaise Compaoré. Ça sera des amis et des proches de ceux qui seront au pouvoir. Alors évidemment, on s'est rapidement aperçu que c'était une fausse page, puisqu'il n'y a pas de site officiel de l'aéroport de Ouagadougou, mais beaucoup de médias avaient relayé cette information avant de faire leurs excuses.
Merci beaucoup. Merci à tous les quatre encore d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup, Karim, et mille excuses encore. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Je vous retrouve.
Un débat qui est passé sur France 24, télévision France 24 internationale. Et ce débat, donc, il parlait sur les événements au Burkina Faso, donc le départ de Blaise Compaoré et le pouvoir, donc les militaires qui ont pris le pouvoir. Donc, on se pose la question de savoir si les militaires vont garder le pouvoir. Mais vous avez bien suivi, vous avez écouter les arguments, les autres, tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que les militaires vont céder le pouvoir aux civils. Mais comme nous parlons le pouvoir, donc la longévité des chefs d'État au pouvoir africain, donc ce sont les chefs d'État africains, nous allons vous donner une information, donc un tableau synoptique, dis-moi, qui va vous montrer comment les présidents africains ont une longévité sur le pouvoir, donc les chefs d'État, qui viennent de passer plusieurs années au pouvoir. Bon, par exemple, si nous prenons l'Algérie, le président vient de passer 15 ans. Bon, Burkina Faso, il est déjà parti, c'est 27 ans. La Gambie, c'est 20 ans. Le Tchad, c'est 23 ans. Le Soudan, 25 ans. Érythrée, 23 ans. Djibouti, 15 ans. Cameroun, 39 ans. Guinée équatoriale, 35 ans. Congo, le Congo-Brazza, donc c'est le Congo-Brazza, 17 ans. Le Congo démocratique, 13 ans, donc c'est RDC. L'Ouganda, 28 ans. Le Rwanda, 14 ans. Angola, 35 ans. Zimbabwe, 34 ans. Au moins, en bref, vous voyez comment les chefs d'État africains passent beaucoup de temps au pouvoir, donc ils maintiennent, donc ils restent longtemps au pouvoir. Bon, nous venons de toucher donc la fin de notre mission, nous arrivons presque à la fin et nous vous souhaitons une très bonne soirée et à bientôt. Merci. Tobilo miyako ya kofinga yo.